Bonjour et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Très joyeux jour de la résurrection. Nous avons un message de Pâques très très spécial à vous transmettre aujourd'hui. Harrison Conley, notre fils aîné et le pasteur principal de Cottonwood Church, a prêché à l'Assemblée et je sais que cela va vous bénir. Je suis convaincu qu'il va vous édifier et vous encourager. Préparez-vous donc pour ce message de Pâques.
Bonjour, je suis Bill S. Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Chère Église, Christ est ressuscité. Magnifique. Encore une fois, prêt? Église, Christ est ressuscité. Oui, 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 il l'est. Luc 24. Je n'ai que quelques minutes avec vous aujourd'hui et je veux lire ces versets. Luc 24, 1-6 dit: Or, le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Mais il arriva, comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici deux hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Pouvons-nous reconnaître qu'il s'agit des trois mots les plus importants de toute l'histoire de l'humanité ? Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais telle proclamation. Ces trois mots, « Il est ressuscité », sont le cri de guerre et le cœur et l'âme de chaque croyant. Comme je l'ai dit ce matin, je n'ai que quelques minutes avec vous. Ma mission est de vous montrer ce Sauveur ressuscité. Je veux vous montrer le tombeau vide. Je pense que la plupart d'entre nous vont à l'Église depuis assez longtemps ou ont grandi dans ce cadre pour comprendre l'histoire de Pâques. Nous comprenons la résurrection. Nous avons lu les versets. Nous connaissons les acteurs. Nous connaissons l'ordre des événements. Je me demandais, même si vous avez grandi dans une Église, même si vous allez régulièrement à l'Église, quand vous êtes-vous arrêté pour la dernière fois et avez-vous réfléchi à ce que la résurrection de Jésus signifie vraiment pour vous en tant que croyant? Je voudrais simplement utiliser le mot « risen », ressuscité en anglais. R-I-S-E-N. J'aimerais partager quelques réflexions. Cinq choses à considérer à propos de la résurrection de Jésus, ce que cela signifie pour vous et pour moi. Vos notes devraient être assez claires. Vous saurez quand j'aurai terminé. R-I-S-E-N. Voici le premier. R. Il signifie redéfinition. Redéfinition. La résurrection signifie la redéfinition. En examinant la résurrection et l'histoire de Pâques, nous sommes confrontés au fait que la puissance de Dieu peut transformer n'importe quoi et l'utiliser pour sa gloire ultime. Ne cherchez pas plus loin que la croix. Ne cherchez pas plus loin que le tombeau. Lorsque nous regardons ces choses, elles nous rappellent que Dieu est le Dieu qui rachète, le Dieu qui transforme et le Dieu qui redéfinit. Voilà ce que je veux dire. Regardez la croix. Retournons même avant la croix au coup de fouet que Jésus a enduré avant d'aller à la croix. Ces choses personnifient la torture et la douleur. Elles personnifient la souffrance et la rupture. Maintenant, à la lumière de la résurrection, à la lumière de la puissance de Dieu, ces choses ont été redéfinies. Elles sont devenues des symboles et des monuments de la paix, de la plénitude, de la guérison et du pardon. Autrefois, symbole de honte grotesque, la croix est aujourd'hui devenue un magnifique symbole de salut. À tel point que la plupart d'entre vous portent une croix sur un collier ou une boucle d'oreille. Certains ont une croix tatouée sur le bras. Nous ne considérons pas cela comme une chose grotesque et honteuse, mais plutôt comme un rappel de l'incroyable miséricorde de Dieu et de sa grâce. Dieu est le Dieu qui redéfinit. Pensez au tombeau. Pour nous, humains, le tombeau a toujours été le symbole de la mort, de la confusion et de la défaite finale. Aujourd'hui, à la lumière de Christ, de sa résurrection, pour nous, croyants, le tombeau a perdu son emprise. Le tombeau a perdu son pouvoir. La mort n'est plus un ennemi. Elle est devenue une amie. Lorsque nous pensons au tombeau vide, nous sommes remplis d'espoir et non de désespoir. Nous avons de l'espoir parce que nous savons que nous avons la victoire finale en Jésus-Christ. Lorsque nous considérons ces choses, nous nous réjouissons parce que nous savons que si Dieu peut redéfinir des choses comme la croix et le tombeau, cela signifie que même dans nos pires jours, même dans nos moments les plus désespérés, même lorsque j'ai bousillé ma vie de manière irrémédiable, Dieu peut rectifier, racheter et finalement redéfinir ces choses pour sa gloire. Voilà ce que signifie la résurrection. Que Dieu rachète ma vie de la destruction. Il redéfinit ma douleur. Il redéfinit ma tragédie en quelque chose de beau pour sa gloire. La résurrection ne signifie pas seulement une redéfinition. La résurrection est aussi irréfutable. C'est la deuxième lettre, I, irréfutable. La résurrection n'est pas un conte de fées inventé pour laver le cerveau des chrétiens. La résurrection n'est pas un canular élaboré que les disciples ont fait subir aux masses pour les amener à soutenir un code éthique religieux mort. Au contraire, la résurrection de Jésus est un fait irréfutable. C'est incontestable, c'est indiscutable, c'est indubitable. C'est un mot amusant. Je sais que la plupart d'entre nous pense que la Bible est la seule source affirmant la résurrection, mais ce n'est pas le cas. Il existe en fait des volumes d'écrits pratiques et historiques qui accréditent la thèse de la résurrection de Jésus. Les preuves existent. Si vous les étudiez, elles vous changeront. Vous pouvez consulter les récits historiques profanes. Par exemple, un homme nommé Joseph a vécu à l'époque de Christ. C'était un historien juif séculier. Il écrit sur la résurrection. Il y a un gouverneur romain nommé Ponce Pilate. Vous le connaissez? Dans ses lettres privées, il parle de la résurrection de Jésus. Au-delà des écrits historiques séculaires, la Bible parle évidemment très profondément de la résurrection. Voici trois faits bibliques, trois témoins bibliques qui attestent de la résurrection. Le premier témoin est celui du tombeau vide. Tous les autres sauveurs religieux sont encore dans leur tombeau. Vous pouvez aller visiter la tombe de Mahomet. Vous pouvez visiter celle de Bouddha. Ils sont toujours là. Pour Jésus, c'est différent. Il a emprunté son tombeau pendant quelques jours seulement. Mais il n'y est plus. Il est ressuscité. Pensez-y comme suit. Le tombeau vide parle fort. Les femmes dont nous avons lu le récit vont au tombeau le matin de Pâques et constatent que la pierre a été roulée. Elles entrent et constatent que Jésus n'est pas là. Immédiatement, elles courent chercher les disciples. Ceux-ci courent vers le tombeau, entrent et se rendent compte qu'il n'est pas là. Il n'y avait pas que les femmes et il n'y avait pas que les disciples. Cela se passait à Jérusalem pendant la Pâque. Lorsque la nouvelle que le tombeau est vide commence à se répandre, toute la ville vient le voir. À la Pâque, Jérusalem comptait 10 fois plus de personnes qu'à l'accoutumée. Les historiens estiment qu'à cette époque, au 1er siècle, Jérusalem comptait en moyenne 100 000 habitants. La Pâque étant une cérémonie de pèlerinage que les gens venaient célébrer, cette population atteignait près d'1 million de personnes. Lorsque les gens ont appris que le tombeau était vide, tous ces gens sont venus pour témoigner et constater que le Sauveur n'était pas là. Ils sont ensuite rentrés chez eux, dans tout le monde connu, et ont commencé à répandre le message. Le tombeau vide parle fort, mais les femmes ne sont pas les seules à l'avoir vu, ni les disciples, ni la ville de Jérusalem. Moi aussi, je témoigne. Personnellement, je me suis tenu devant le tombeau. Je suis entré dans le tombeau et je peux vous garantir qu'il n'est pas là. Il n'y est pas. En fait, nous en avons une photo. C'est moi à l'extérieur de la tombe, soutenant l'UCLA. Désolé pour tous mes amis de l'USC. Il n'est pas là. Un vieux dicton dit « La pierre a été roulée, non pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour que nous puissions entrer. » Pour que nous puissions entrer et témoigner du fait que le tombeau est vide. Voici le deuxième témoin biblique de la résurrection. Il s'agit des témoignages oculaires. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez pour réfuter que le tombeau était vide, mais vous ne pouvez pas contester les témoignages oculaires. Surtout qu'il ne s'agit pas que d'un seul ou de deux témoignages. Ce n'est pas seulement celui de Marie qui était au tombeau. Ce n'est pas seulement celui des 11 disciples qui ont vu le tombeau. En 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul mentionne 5 moments différents où Jésus ressuscité est apparu à des gens. Paul va même jusqu'à citer les noms des personnes qui l'ont vu. Paul déclare, « Que vous m'aimiez ou non, allez parler à ces gens. Ils sont encore en vie et vous diront ce qu'ils ont vu. » Lors d'un de ces 5 moments, Jésus est apparu à un groupe de 500 personnes. En Acte 1, on nous dit que pendant les 40 jours qui ont suivi la résurrection, Jésus a continuellement rencontré des gens et leur a parlé avant de monter au ciel devant ses disciples. Il existe une théorie selon laquelle les personnes qui ont vu Jésus ont peut-être toutes eu la même hallucination. Ou bien qu'elles étaient toutes dans le coup et qu'il s'agissait d'une supercherie élaborée. Vu le nombre de personnes qui ont vu le Seigneur ressuscité, il est impossible qu'elles aient toutes eu la même hallucination. Et il est impossible qu'autant de personnes n'auraient conservé exactement la même histoire. Ce n'est pas un canular. Il est vivant. Voici le troisième témoin de la résurrection. C'est le changement chez les disciples. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, comment expliquer que ses disciples soient passés d'un état de lâcheté et d'inconstance à un groupe de leaders courageux, audacieux et francs? La nuit de l'arrestation de Jésus, Pierre a nié à 3 reprises avoir connu Jésus. Pourtant, après la résurrection et après avoir vu Jésus de leurs propres yeux, chacun de ses disciples a complètement bouleversé le monde. Nombre d'entre eux ont donné leur vie en tant que martyrs pour leur foi. Ils ont donné leur vie pour leurs convictions et pour avoir enseigné Jésus et la résurrection. Comment ce changement se produit-il? Il se produit parce que Jésus est vivant. Il s'agit de 3 éléments fondamentaux de preuve. 3 témoins qui, lorsqu'ils sont réunis, exigent un verdict. Ces éléments prouvent de manière irréfutable que Jésus est ressuscité. Passons à la lettre suivante, la lettre S. Celle-ci me passionne. C'est la même puissance, same, en anglais. Parce que Jésus est ressuscité, sa vie surnaturelle devient notre vie. J'aime la façon dont l'apôtre Paul en parle en Romains 8. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir en Romains 8, 10, 11. Paul dit, « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, pause. Si vous avez mis votre foi en Christ, en son œuvre achevée sur la croix et en sa résurrection, si vous appelez Jésus Seigneur et Sauveur, vous êtes rempli de son Saint-Esprit. Romains 5:5 dit que Dieu déverse son amour dans votre cœur par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu applique le salut à votre vie. Il vous remplit de son Saint-Esprit. Paul dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie. » J'aime ce mot puissant. Il signifie littéralement « puissance de résurrection ». Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi une force de résurrection à votre corps mortel par l'intermédiaire de son esprit qui habite en vous. C'est extraordinaire. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même Esprit Saint qui a exercé cette puissance, vit maintenant en nous et nous apporte la même vie surnaturelle et la même puissance de résurrection dans notre corps mortel. Je vais le dire ainsi. La résurrection n'est pas une simple célébration. Je suis ravi que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui pour célébrer la résurrection, mais ce n'est pas tout. La résurrection n'est pas seulement une célébration, c'est une expérience. C'est une expérience puissante et personnelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'écrit en Philippiens 3, « Pour le connaître, lui, le Christ ressuscité, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Pâques devient pour vous plus qu'une simple histoire, que lorsque vous mettez toute votre foi en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous, lorsque vous faites cela, la puissance surnaturelle de Dieu est libérée dans votre vie. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vient vivre et habiter en vous. Sa puissance est si radicalement surnaturelle qu'elle vous change totalement et complètement de l'intérieur. Vous êtes toujours le même à l'extérieur, mais vous êtes complètement nouveau à l'intérieur. C'est tellement surnaturel que Jésus a dit que c'était comme naître de nouveau. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou spirituellement parlant, tout ce qui est ancien disparaît. Tout devient tout nouveau. La Bible nous dit qu'avant la résurrection, nous étions morts à cause de nos péchés et de nos fautes. Nous étions tous esclaves du péché. Nous étions esclaves des désirs de notre chair. Maintenant, à cause de la résurrection et parce que la vie surnaturelle de Dieu vit en nous, nous ne sommes plus esclaves du péché. Notre statut a changé. Nous passons de la mort à la vie. Vous devez comprendre à quel point l'Évangile est surnaturel. Il ne s'agit pas de transformer une mauvaise personne en une bonne personne. Lorsque la puissance de résurrection de Dieu entre dans votre vie, elle ne nous modifie pas. Elle nous rachète entièrement. Dieu ramène la personne morte à la vie. C'est ce que la puissance de Dieu fait en nous. Nous avons été rendus vivants ensemble en Jésus-Christ. Nous sommes désormais plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Cela signifie que nous ne sommes plus dominés par nos désirs pécheurs, nos anciennes façons de penser et de faire. Si nous sommes honnêtes à l'Église ce matin, ce qui est une bonne politique, je pense que la plupart d'entre nous savent ce que c'est que d'être coincés dans de vieilles habitudes pécheresses. Nous devrions être plus avisés, mais nous nous égarons quand même. Et nous sommes la proie de péchés familiers. Nous nous regardons dans le miroir et pensons, « Je pensais que ce serait différent. J'ai l'impression de faire deux pas en avant, puis un pas en arrière. » Très souvent, nous nous sentons impuissants parce que nous avons essayé de changer. Nous avons essayé de faire ce qui est bien. Nous avons essayé de devenir plus disciplinés, mais nous retombons toujours dans le même péché. J'ai constaté que c'était le cas dans ma vie. Lorsque j'essaie de changer par mes propres moyens, cela semble rarement fonctionner. J'ai besoin d'une puissance supérieure. C'est la beauté de la résurrection. Elle déclare que vous n'avez pas à le faire seul. Vous n'avez pas à compter sur vos propres forces parce que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en nous. Lorsque nous comptons sur sa puissance et non sur la nôtre, cela nous permet de combler le fossé entre la personne que nous sommes et celle que Dieu nous appelle à devenir. Jésus a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a dit, « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Elle vient vivre et habiter en chacun de nous. Puis rapidement, les deux derniers. E. La vie éternelle. La vie éternelle. Grâce à la résurrection, j'ai l'espoir sûr et inébranlable qu'un jour, lorsque je devrai abandonner ce corps physique à la mort, ce ne sera pas la fin. Au contraire, lorsque je rendrai ce corps, j'entrerai dans la vie éternelle. Comme nous l'avons chanté ce matin, aucun tombeau ne retiendra. Mon professeur d'anglais dirait « ne me retiendra ». Aucun tombeau ne retiendra mon corps. Tout comme Christ a été ressuscité, je serai moi aussi ressuscité et je mènerai une vie nouvelle pour toute l'éternité. 1 Corinthiens 15 en parle en détail. La Bible dit que parce que Christ est ressuscité, un jour viendra bientôt, très bientôt, où nous nous débarrasserons de la mortalité et où nous revêtirons l'immortalité. La Bible dit que nous aurons un nouveau corps, un corps glorifié, semblable à celui de Christ. Un corps qui sera imperméable à la maladie, à la souffrance, au péché, à la mort et à la décomposition. Nous serons semblables à lui. Nous serons pleinement épanouis. La Bible dit qu'en ce jour, il essuiera toute larme de nos yeux. Toute injustice sera réparée. Un jour vient bientôt et très bientôt où nous verrons le roi Jésus. Pour l'instant, c'est comme regarder à travers un verre obscur. Nous ne comprenons pas tout le poids de la gloire. Lorsque nous abandonnerons la mortalité, que nous revêtirons l'immortalité et que nous entrerons dans la vie éternelle, c'est là que nous verrons tout le poids de ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque nous le verrons, et que nous verrons les yeux d'amour à travers lesquels il nous regarde, nous nous mettrons à genoux et nous jetterons nos couronnes à ses pieds. Et nous nous écrirons avec les corps célestes, « Saint, 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 Saint est l'agneau de Dieu. » La résurrection signifie la vie éternelle. Parce que Jésus est sorti du tombeau, il en sera de même pour vous et moi. Enfin, et c'est là que je termine, la lettre N signifie « maintenant »,« now » en anglais. Maintenant. Maintenant que vous avez entendu le message de la résurrection, qu'allez-vous en faire? Maintenant que vous avez entendu le message sur notre merveilleux Sauveur, qu'allez-vous en faire? Maintenant que vous avez entendu le message sur l'amour qu'il vous porte et sur la façon dont il s'est donné pour vous, qu'allez-vous en faire? Le pasteur Bayless et moi parlions entre deux services. Il m'a rappelé cette histoire qui résume si bien l'Évangile. J'aimerais la partager rapidement avec vous. Il y avait un petit garçon. Il était fasciné par les bateaux. Il a acheté un petit kit et il a construit un petit bateau qu'il voulait faire naviguer sur l'étang près de sa maison. Il s'est donné beaucoup de mal pour que tout soit parfait. Il a choisi sa couleur préférée, le rouge. Il l'a peint en rouge cerise. Il a cousu toutes les voiles à la main. Il a travaillé plusieurs jours pour que tout soit prêt. Puis il est allé à l'étang pour voir s'il pouvait le faire flotter. Il l'a posé sur l'eau et à sa grande surprise, il flottait parfaitement. Il était prêt à prendre la mer, mais le vent s'est levé. Le vent a fait gonfler les voiles du petit bateau qui a été propulsé au-delà de la portée du petit garçon. Il a fini par perdre son bateau de vue et était tellement découragé qu'il est rentré chez lui. Il avait perdu son petit bateau. Quelques jours plus tard, il marchait dans la rue et passa à côté d'un prêteur sur gage. Il regarda dans la vitrine et y vit son bateau. Il l'a reconnu parce qu'il était peint de ce rouge spécial. Il entra et dit au propriétaire, « C'est mon bateau !» Le propriétaire lui répondit, « Je suis désolé, quelqu'un me l'a vendu. Si vous le voulez, vous pouvez me l'acheter. » Le petit garçon triste rentra chez lui. Il prit toutes ses économies et vida sa tirelire. Il y retourna et acheta le bateau. Alors qu'il s'éloignait du magasin, il le tenait fermement dans ses mains. Il regarda le bateau et dit, « Je t'aime. Maintenant, tu es à moi deux fois. D'abord parce que je t'ai fabriqué et ensuite, maintenant, parce que je t'ai acheté. » Votre Père céleste ne vous a pas seulement créé. Il vous a racheté. Non pas avec le sang de taureau ou de bouc, mais avec le sang précieux de son Fils. Il a vidé les coffres du ciel pour vous racheter et pour me racheter. Vous êtes à lui deux fois, parce qu'il vous a créé et parce qu'il vous a racheté. Encore une fois, maintenant que vous avez entendu le message, qu'allez-vous en faire? Vous devez comprendre ce à quoi vous vous engagez. Si vous recevez ce message, ce que j'espère, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une soumission totale et complète à Dieu. C'est radical. Mais le monde a besoin de croyants radicaux aujourd'hui. Le monde a besoin d'une église radicale qui se soumet totalement à l'appel de Dieu. Qu'en ferez-vous? Ce message est pour vous. L'Évangile est pour vous. Le salut est pour vous. Vous devez le recevoir. Vous devez comprendre que vous n'avez rien à offrir à Dieu et que vous avez tout à recevoir.
Eh bien, mon ami, ce n'est pas une coïncidence si vous regardez encore ou si vous écoutez encore. Il y a un Dieu au ciel qui connaît votre nom. Je veux juste vous dire qu'il sait ce que vous avez fait, il sait ce que vous n'avez pas fait, et il vous aime. Il a déjà pris une décision à votre égard. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour vous sauver et vous apporter une vie nouvelle. Si vous faites appel au Seigneur, vous constaterez qu'il est très miséricordieux, qu'il pardonne et qu'il est d'une aide très précieuse lorsque vous en avez besoin. Je voudrais terminer en vous disant que Dieu vous aime et que si vous invoquez le nom du Seigneur, il vous fera entrer dans une relation avec lui. C'est une chose merveilleuse que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose sérieuse parce qu'il est saint, mais c'est une chose merveilleuse parce qu'il est aussi amour et qu'il vous aime. Rejoignez-nous la prochaine fois. À bientôt.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.